Il y avait quelque chose d'assommant, regarder ces images hier de Notre-Dame de Paris, de voir les flammes, de voir la fumée, de voir la flèche tomber et de craindre toute la journée que ce bâtiment s'effondre complètement. Heureusement, les nouvelles sont meilleures. D'abord, on peut dire ce matin que l'incendie a été complètement, non seulement maîtrisé, mais les flammes sont éteintes. Philippe Bonneville est directement devant la cathédrale Notre-Dame de Paris. Alors donc, l'incendie éteint, mais là, il faut voir si la structure, elle, a été fragilisée.
Absolument. Ici, on ne voit plus aucune flamme qui s'échappe de la cathédrale parce que les pompiers, Paul, ont réussi, oui, à complètement éteindre les derniers foyers d'incendie au cours de la nuit heure du Québec. Mais il y a encore beaucoup de pompiers là, qui sont présents. On veut évidemment s'assurer que le feu ne reprenne pas, mais aussi à l'aide d'immenses grues de nacelles qu'on voit présentement ici. On inspecte présentement la structure, question de déterminer si cette structure-là, elle a été fragilisée, s'il y a un risque d'effondrement. Je me trouve, moi, donc, comme tu l'as dit, en face de la cathédrale, en face de ces deux tours et des cloches qui, heureusement, ont été sauvées. Mais il y a quand même une grande partie du toit qui est partie en fumée. La flèche, on le sait, s'est effondrée. Les dégâts sont vraiment immenses. Les vitraux, les tableaux centenaires ont été détruits. Mais l'or, nous dit-on, est en bon état. Je laisse immédiatement entendre un député français avec qui j'ai pu m'entretenir au cours des dernières minutes.
Les trésors ont été sauvés, les tours ont été sauvées, l'architecture est sauvée. Donc, heureusement, Notre-Dame pourra vivre encore des siècles. Simplement, cela va prendre des décennies de reconstruire la charpente et la flèche, surtout. Ah, les gens pleurent, les gens sont émus. Hier, les gens s'embrassaient, on pleurait dans la rue. Et c'est là où on voit qu'il faut qu'il y ait ce malheur pour que les Français se retrouvent.
Et c'est vrai, Paul, qu'il y a beaucoup de solidarité, une grande mobilisation. Il y a une campagne de financement national qui a d'ailleurs été lancée ici aujourd'hui, a fait l'amassée d'argent pour la reconstruction. Déjà, plus de 350 millions d'euros qui ont été amassés en quelques heures à peine.
Bon, l'enquête se poursuit, je le disais. Là, on regarde de plus en plus la thèse de l'accident. Et il y a des travailleurs qui ont été interrogés justement au cours des dernières heures.
Ouais, c'est la piste accidentelle qui est toujours privilégiée pour l'instant. On n'écarte pas la piste criminelle, mais c'est vraiment là écarté pour l'instant. C'est pas la piste privilégiée. Les enquêteurs ont identifié, contacté aussi une vingtaine d'ouvriers qui ont travaillé sur le chantier hier, mais qui avaient, semble-t-il, tous quitté quand l'incendie a débuté. Ces gens-là ont été interrogés au cours des dernières heures. On tente, via leur témoignage, de comprendre qui a provoqué l'incendie. Est-ce que c'est une erreur humaine? Est-ce que c'est un outil qui pourrait avoir provoqué l'incendie? Pour l'instant, on ne le sait pas.
Et parlons de ces centaines de personnes qui sont rassemblées sur les rives de la Seine pour regarder Notre-Dame qui se trouve au cœur de la ville.
Oui, il est presque 14h en après-midi ici à Paris. Des centaines, peut-être même des milliers de personnes, Paul, qui sont rassemblées juste à quoi 150 mètres de l'endroit où je me trouve, de l'autre côté de la Seine, parce que les gens qui connaissent Paris savent que la cathédrale, elle est située sur l'île de la Cité, une toute petite île au milieu de la Seine. Donc, les gens sont là, abasourdis, médusés, stupéfaits. Et c'est quelque chose de voir les images à la télévision, comme la plupart des gens l'ont fait. Mais les Parisiens veulent venir voir de leur propres yeux, l'ampleur des dégâts, voir de quelle façon ce monument ultra connu partout sur la Terre a été vraiment défiguré. Donc, ces gens, on le sent, sont très tristes de tout ça. Il y a eu plusieurs rassemblements au cours des dernières heures. On n'a pas vu d'aussi gros rassemblements ici à Paris, Paul, depuis les tristes événements des attentats des dernières années.
Merci beaucoup. Et Notre-Dame de Paris, évidemment, c'est l'objet de visites de 13, 14 millions de personnes par année. Et on a parlé plus tôt avec Isabelle Bombardier, une Québécoise qui est avec ses amis de la région de Nicolet à Paris et comme tout le monde, se rend visiter Notre-Dame de Paris à peine une heure avant l'incendie. Elle était attablée à une terrasse lorsque les flammes ont pris naissance.
On a quitté la cathédrale, il devait être à peu près 17h30, 17h45. On s'est attablé à un pub près pour prendre un petit apéro et au moment de quitter le pub, on a vu la grosse colonne de fumée là. Donc, on s'est redirigé vers Notre-Dame en se disant que ça ne se pouvait pas que ce soit Notre-Dame qui soit en feu, que ça devait être un petit pub tout près, un restaurant, quelque chose. Puis plus on approchait, plus on voyait que malheureusement, c'était Notre-Dame qui brûlait. Donc, à ce moment-là, il y a eu une évacuation assez rapide des policiers du secteur.
C'est sûr que Notre-Dame, bon, c'est une cathédrale, c'est le patrimoine, c'est la religion, et pour reprendre des expressions qui tournent en France depuis hier, Ça va de la reine Margot jusqu'à ses manifestations après le Bataclan, ses moments de recueillement. Ça passe par Napoléon, ça passe par tous les présidents français, par la Libération. Et j'ai parlé aussi avec Cécile Coulangeon, qui est docteur en histoire de l'art du Moyen-Âge. Et justement, elle situe clairement l'importance de Notre-Dame de Paris.
C'est un point de rencontre et qui a accueilli effectivement à la fois des cérémonies religieuses, mais aussi des événements beaucoup plus laïcs, comme effectivement le fait qu'on s'y rassemblait au moment de la libération de Paris. C'est également là, en 1302, que le roi Philippe le Bel y avait convoqué les premiers états généraux, qui étaient des représentations de toutes les couches de la société pour discuter des problèmes du royaume. Donc c'est vrai que ça a toujours été un endroit où, quand il y avait un souci, on avait toujours un rassemblement autour de Notre-Dame de Paris.
Et c'est le point zéro de la ville, et c'est à partir de Notre-Dame de Paris qu'on calcule comme ça toutes les distances, donc dans le centre de Paris, ce qui est quand même assez exceptionnel. Et l'autre défi, ce sera de faire l'inventaire, de sauver les œuvres d'art qu'on y retrouve.
Les sculptures, les vitraux, l'architecture qui font partie du monument. Et de ce point de vue-là, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'inquiétudes à l'heure actuelle sur les vitraux, notamment des roses du transept, qui étaient des vitraux du XIIIe siècle, qui étaient les rares vitraux originaux qui subsistaient à Notre-Dame. Et après, effectivement, à l'intérieur, il y a tout un mobilier. Donc, il y avait plusieurs orgues et notamment un orgue du XVe siècle à la façade occidentale qui, malheureusement, semble-t-il, d'après ce que les gens commencent à dire, aurait brûlé, donc serait perdu. Il y a beaucoup de peintures sur bois dans les chapelles qui, visiblement, n'ont pas pu être déplacées. Par contre, effectivement, il y a le trésor qui était constitué des vestiges, des reliques de la Passion du Christ qui avait été acheté par Saint-Louis. Il y a notamment les reliques de la couronne d'épines du Christ qui étaient conservées là, un fragment de la tunique de Saint-Louis, des objets d'orfèvrerie. Et ça, visiblement, ça a pu être sauvé, déplacé et ça aurait été mis en sécurité dans les locaux de la mairie de Paris. Et puis sinon, il y a également tout un décor peint dans les chapelles, qui est un décor à fresques du XIXe siècle, qui là malheureusement, entre la chaleur et puis surtout l'eau qui a été déversée, risque d'avoir été aussi fortement endommagé.
Il faut souligner le travail des pompiers hier dans un contexte extrêmement difficile, un vieux bâtiment. On parlait dans la charpente du toit de ce qu'on appelle la forêt, compte tenu qu'on a utilisé tellement de bois, du chêne, du bois sec évidemment. Et bâtiment très haut. Hier, j'entendais le porte-parole des sapeurs-pompiers qui disait « on doit combattre les flammes de l'intérieur, donc arroser les flammes par le dessous ». Stéphane Corriveau est chef de division à l'intervention du service de sécurité incendie de Montréal. Monsieur Corriveau, bonjour.
Bon matin, Monsieur Arcan.
Ah, c'est vrai que c'est un défi pour les pompiers, là, combattre un incendie comme celui-là.
Exactement. C'est une structure qui est très haute, une structure qui est souvent autoportante. Le toit, en fait, ce qui brûle dans une structure comme ça, c'est le toit qui est fait en bois, comme vous l'avez bien souligné, ainsi que le contenu. Évidemment, les murs extérieurs sont en pierre, donc à ce moment-là, c'est incombustible. Mais pour tout le reste, là, c'est tout un défi pour les pompiers s'attaquer à une structure comme ça.
Et hypothèse, vous arrivez devant une structure comme celle-là, quels sont les premiers gestes que vous posez? Comment vous réagissez?
Oui, on attend. Évidemment, on essaie de localiser notre incendie. On en a eu un récemment sur la rue Follum, un incendie d'église. On essaie de localiser rapidement le foyer d'incendie parce que si on n'est pas offensif, donc de l'intérieur dans les premières minutes, bien évidemment, on va se ramasser devant un incendie qui va être majeur avec la structure du toit, comme on a parlé tantôt, qui est combustible. Et à partir de là, on n'aura plus accès à l'intérieur. Il va falloir combattre le feu de l'extérieur. Et ça devient très compliqué pour nous. C'est ce qu'ont fait hier les pompiers de Paris. Finalement, là, ils ont, pendant de longues heures, mis de l'eau sur l'incendie, mais souvent, l'affaissement du toit ne permet pas d'atteindre les différents foyers d'incendie ou les vestiges de feu qui restent. Et dans un cas comme hier, bien évidemment, on ne veut pas démolir le bâtiment. C'est un bâtiment qui est historique. Donc, évidemment, bien, on privilégie de mettre de l'eau jusqu'à temps qu'on soit capable d'éteindre complètement les vestiges.
OK. Et quand vous avez peut-être lu les propos du président Trump qui proposait d'utiliser des sels 215 pour larguer de l'eau sur Notre-Dame de Paris, c'est quoi votre réaction?
Bien, ma réaction, c'est que c'est impossible. C'est dans nos rêves, là, parce que la quantité d'eau qu'un CL 215 ou qu'un hélicoptère pourrait déposer sur le bâtiment provoquerait l'affaissement du toit. Donc, le poids de l'eau est énorme. Donc, on ne pourrait pas mettre une quantité d'eau d'un seul coup comme ça sur une structure qui est affaiblie par un incendie. Ça n'aurait pas de sens, là. Puis s'il y a des pompiers qui tentent de combattre l'incendie de l'intérieur, ben ça ne sera pas souhaitable, là. On ne peut pas mettre la vie des pompiers en danger. On est dans une ville, on n'est pas dans un bois, là. On ne peut pas commencer à répandre de l'eau partout. Puis il y a des citoyens qui sont à proximité. On ne peut pas faire ça.
OK.
C'est pas une option. Et les délais pour avoir ce genre d'équipement-là seraient beaucoup trop longs.
Parfait. Parlons de Montréal. Si on fait des comparaisons, c'est toujours évidemment compliqué. Là, on pense à la basilique Notre-Dame, qui, me dit-on, a été, comme on dit, remise aux normes là en 1978.
L'incendie, il y a eu un incendie important en 78 à la basilique. La remise aux normes a été faite entre 78 et 83. Donc, ça a pris quasiment 5 ans à rebâtir ce qui avait passé au feu. Et à partir de là, bien évidemment, le code avait changé, le code du bâtiment avait changé, les normes avaient changé. Et on a giclé l'église Notre-Dame, on a mis un système sec à l'extérieur, on a giclé le toit, on a mis un système d'alarme incendie relié, etc. Donc aujourd'hui, les règles ne sont plus les mêmes du tout. Là. Même dans ces années-là, là, les règles, tu sais, on parle d'une église qui a été bâtie dans les années 1800. Entre 1800 puis 78, là, il y avait 1978, il y a eu beaucoup de changements. Donc aujourd'hui, ce genre d'incendie-là pourrait, à moins de défaillance du système de protection, là, c'est peu probable qu'on aurait un incendie de cette ampleur-là sans être au courant ou sans arriver rapidement par la détection.
Merci beaucoup, M. Corriveau.
Ça me fait plaisir.
Au revoir, Stéphane Corriveau, est chef de division à l'intervention, donc au service des incendies de Montréal. C'est lui qui prend les commandes des incendies majeurs, troisième alarme et plus, pour lesquels il y a entre 80 et 120 pompiers qui sont déployés. Marc, les points chauds.